Étude sur la première épître à Timothée par Henri Rossier, édition 1957. Introduction. Avant d'entreprendre une étude détaillée de cette épître, il nous semble utile de rappeler en quelques mots ce qu'est l'Église ou l'Assemblée, telle que l'Épître aux Éphésiens et quelques autres passages nous la présentent, et ce qu'est cette même assemblée dans les trois Épîtres, 1 et 2 Timothée et Tite, appelées avec plus ou moins de raison les Épîtres pastorales. L'Épître aux Éphésiens nous présente l'assemblée sous tous ses aspects sauf un. Les trois épîtres en question sous le seul aspect qui manque dans l'épître aux Éphésiens. Voici comment l'assemblée nous est présentée dans cette dernière. Premièrement, elle est, avant tout, le corps de Christ sur la terre, Éphésiens 1, verset 23, composé de tous les croyants vivants formés en unité. Éphésiens 1, verset 23. L'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Cette unité abolit toute distinction entre juifs et gentils et forme un ensemble indissolublement lié par le Saint-Esprit avec Christ, tête glorifiée de son corps dans le ciel. C'est un mystère dont l'apôtre Paul seul est l'administrateur. Malgré la ruine actuelle de l'assemblée, nous pouvons encore, et ne fussions-nous que deux ou trois, manifester cette unité à la table du Seigneur, selon 1 Corinthiens 10, verset 17.
Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain.
Immense privilège pour ceux qui en ont compris la portée. Deuxièmement, l'Église est l'épouse de Christ, Éphésiens 5, versets 24 à 27.
Mais comme l'Assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée, et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présente à l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable.
Le Seigneur s'en occupe pour la purifier par la parole, pendant sa marche ici-bas, avant de la recueillir auprès de lui dans la gloire. Ici encore, malgré la ruine de l'Église, quiconque réalise comme une chose actuelle, l'amour sans borne de Christ, par lequel il s'est livré lui-même pour son épouse, comprendra, dans les fibres les plus intimes de son cœur qu'il en fait partie, en jouira comme d'une réalité profonde qui s'adresse à ses affections et s'écriera avec elle, dans la puissance du Saint-Esprit qui l'anime,
« Viens, Seigneur Jésus !»
Apocalypse 22, verset 17. Troisièmement, l'assemblée est un temple saint que le Seigneur lui-même édifie sur le fondement des apôtres et prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la maîtresse pierre du coin, un édifice en croissance, jusqu'à ce que son divin architecte y ait ajouté la dernière pierre. Ainsi, construite par lui, cette maison de Dieu est un édifice parfait. Éphésiens 2, versets 19 à 21.
Ainsi donc, vous n'êtes plus étranger ni forain, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le Seigneur.
La même vérité nous est présentée en Matthieu 16, versets 16 à 18.
Et Simon-Pierre répondant dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, répondant lui dit, « Tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. »
C'est sur la confession de Christ, déclaré par sa résurrection, Fils du Dieu vivant, que le Seigneur bâtit son assemblée. Pierre est une des pierres de cet édifice, contre lequel les portes du Hadès ne peuvent rien. Ici encore, l'œuvre tout entière dépend de Christ seul, et Satan lui-même est impuissant pour la détruire. En 1 Pierre 2, verset 5, nous trouvons quelque chose d'analogue. 1 Pierre 2, verset 5.
Vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Christ y est la pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Nous nous approchons de lui comme des pierres vivantes, et sommes édifiés sur lui comme une maison spirituelle. Qu'il y ait des instruments pour apporter ces pierres ne fait aucun doute. Mais ici la parole, faisant abstraction de toute instrumentalité humaine, nous montre que l'édifice n'est composé que de pierres vivantes. Quatrièmement, nous sommes édifiés ensemble dans le Seigneur pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, verset 22.
Vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit.
Il y a donc dans ce monde une chose telle qu'un lieu où Dieu lui-même habite par son Esprit. Ici, de nouveau, rien n'est laissé à la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas lui qui édifie, c'est Dieu lui-même qui veut avoir une habitation ici-bas. Ce grand fait s'est réalisé par l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et a été complété par l'introduction des gentils dans l'assemblée chrétienne. Tels sont les divers aspects offerts jusqu'ici par l'assemblée. C'est Dieu lui-même qui fait l'ouvrage. Aussi n'existe-t-il proprement pas de différence entre ce qui constitue le corps, l'épouse, l'édifice ou la maison. Tous, lors de leur formation, sont composés des mêmes éléments. L'œuvre qui les réunit en un est parfaite, parce qu'elle est divine. Mais il est vrai aussi que Dieu confie l'édification de sa maison dans ce monde à la responsabilité de ceux qui en font partie. L'ouvrage de l'homme y entre alors pour une part, et c'est ce que nous présente d'une manière évidente le troisième chapitre de la première épître aux Corinthiens. Paul avait posé, comme un sage architecte, le fondement qui est Christ, et personne ne peut poser d'autre fondement que celui-là. Chacun avait à voir comment il édifierait sur ce fondement. Dieu avait d'abord, comme pour toute création, fait tout cela fort bon, mais le moment vient où il confie son œuvre à l'homme. Comment ce dernier va-t-il s'acquitter de son travail? En dépit de ce qui pourra arriver, Dieu continue son œuvre et l'achèvera. Mais, confié à l'homme, il est prouvé que, si certains ouvriers sont de bons ouvriers, faisant de bons ouvrages, d'autres, hélas, tout en étant de bons ouvriers, font de mauvais ouvrages, et qu'enfin, une troisième classe est composée de mauvais ouvriers, qui corrompent et détruisent le temple de Dieu. L'œuvre des ouvriers peut consister dans l'introduction de bonnes ou mauvaises personnes, de bonnes ou mauvaises doctrines. Il reste cependant toujours vrai que, même considéré sous cet aspect, l'édifice n'en est pas moins le temple de Dieu, la maison de Dieu. Il en était ainsi du temple de Jérusalem quand le Seigneur disait «
Il est écrit, « Ma maison est une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. »
Luc 19, verset 46. Cependant, comme tel, Elle n'avait pas cessé d'être appelée la maison de Dieu. Cette maison est au fond toujours l'ouvrage de Christ, malgré les éléments impurs que l'homme y a introduits, malgré les mauvais matériaux qui la déparent, le fondement en a été posé par un sage architecte, l'apôtre Paul, qui n'a pas manqué à sa tâche. Aussi, quelle que soit sa corruption, cette maison subsiste aussi longtemps que Dieu y habite par son esprit. Mais il arrivera un moment où elle ne contiendra plus de bons matériaux, lorsque l'esprit remontera au ciel avec l'épouse, et que le Seigneur vomira de sa bouche, comme une chose dégoûtante, ceux qui avaient porté son nom. Toutefois, n'oublions pas qu'appartenir à la maison de Dieu, même responsable ici-bas, est un immense privilège. Quelle que soit la condition morale de cette maison, elle reste un lieu où Dieu habite par son esprit. On ne trouve pas ce lieu partout dans le monde, Dieu n'habitant par son esprit, ni dans le mahométisme, ni même dans le judaïsme. C'est dans ce lieu-là qu'on rencontre la vie unie à la profession chrétienne. Mais hélas, aussi la profession chrétienne sans la vie, devenant pour ceux qui n'ont que la profession, la cause même de leur condamnation. C'est là que l'on trouve, d'autre part, l'esprit et ses manifestations diverses, la vérité, la parole inspirée, l'évangile du salut, le témoignage. En séparant la profession de la vie, Satan a fait une œuvre de destruction. Cette œuvre néfaste, basée sur la mondanité qui s'est introduite dans l'Église, et accompagnée de fausses doctrines et de légalisme, a commencé de bonne heure du temps des apôtres, comme nous le voyons dans les Épîtres et dans les Actes. N'est-il pas frappant que ces choses soient annoncées aux anciens d'Éphèse, assemblée où les vérités les plus élevées du christianisme avaient été proclamées et appréciées, Actes 20, versets 29 et 30, et que ce soit encore à Éphèse que Timothée est allé réprimer, 1 Timothée 1, verset 3, Actes 20, versets 29 et 30.
Moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables, qui n'épargneront pas le troupeau, et il se lèvera d'entre vous-même des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux.
1 Timothée 1, verset 3.
Comme je t'ai prié de rester à Éphèse lorsque j'allais en Macédoine, afin que tu ordonnasses à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères.
En 2 Timothée, le mal progressant, la maison de Dieu est devenue une grande maison, contenant des vases à déshonneur dont il faut se purifier, car le chrétien ne peut sortir de la maison elle-même. C'est donc sur le terrain de la maison de Dieu responsable que nous introduisent les épîtres à Timothée et celles à Tite. Seulement, dans la première épître à Timothée, nous trouvons encore la maison de Dieu
comme assemblée du Dieu vivant, colonne et soutien de la vérité.
Les chrétiens responsables de son ordre et de son fonctionnement, le mal existant et cherchant à se faire valoir dans l'assemblée, une digue mise par le Saint-Esprit à son débordement par l'activité du fidèle Timothée, délégué de l'apôtre. En 2 Timothée, nous trouvons une grande maison, avec un mélange profondément attristant de vases à honneur et à déshonneur, mais en même temps, chose infiniment consolante, un chemin révélé pour le jour actuel, jour de ruine irrémédiable au milieu de ces décombres, un chemin dans lequel le Seigneur peut être glorifié par les fidèles, comme au plus beau jour de l'édification de la maison de Dieu. Il est évident que les épîtres à Timothée ne nous transportent pas, comme celles aux Éphésiens, dans les lieux célestes. Il s'agit ici d'un témoignage rendu au Seigneur sur la terre et caractérisé par l'ordre et la discipline selon Dieu, ordre que les anges sont appelés à contempler, de manière à voir le Dieu invisible dans l'assemblée de ceux qu'il a sauvés. Chapitre 1er.
Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon le commandement de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi, grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Comme je t'ai prié de rester à Éphèse lorsque j'allais en Macédoine, afin que tu ordonnasses à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères et de ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies interminables qui produisent des disputes plutôt que l'administration de Dieu qui est par la foi. Or, la fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère, desquels quelques-uns s'étant écartés se sont détournés à un vain babil, voulant être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent. Mais nous savons que la loi est bonne, si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci, que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour les batteurs de père et les batteurs de mère, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine, suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. Et je rends grâces au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux. Mais miséricorde m'a été faite, parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montra toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or, qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elle tu combattes le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi, du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon le commandement de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi, grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Les versets que nous venons de citer commencent par établir les seules bases selon lesquelles l'homme entre en relation avec Dieu, et qui seront détaillés dans la suite de ce chapitre. Ces bases étaient le sujet du ministère de l'apôtre. Dieu se présente ici avec un titre qu'on ne lui voit que dans les épîtres pastorales, non pas qu'il ne soit appelé autre part, comme par exemple en Luc 1,47, « Dieu mon Sauveur » ou « Notre Sauveur », mais nous le rencontrons ici avec ce titre, pour ainsi dire unique et primordial, ce qui caractérise dans ce passage sa divinité en elle-même, c'est le salut.
Luc 1, verset 47,
« Mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon Sauveur. »
Ce salut est présenté selon sa portée universelle. En nous approchant de Dieu, nous ne le rencontrons que dans ce caractère. Sans doute, il est le juge, le Dieu souverain, le Créateur, le Saint, etc. Mais, dans le jour actuel, il se révèle seulement comme Dieu Sauveur. Quel titre précieux, quelle grâce incomparable! Il faudra que les pécheurs le rencontrent une fois comme juge, mais actuellement il ne revêt qu'un titre, celui du Dieu qui fait grâce. Quand les hommes d'aujourd'hui devront paraître devant lui, pourront-ils s'excuser de ne pas avoir été sauvés quand ils ne s'étaient révélés au monde sous aucun autre titre? Paul était apôtre selon son commandement. Comme Dieu éternel, il lui avait donné un commandement, une mission spéciale, en vue de la révélation du mystère de l'Église. Romains 16, versets 25 et 26. Mais ici, le commandement était en vue de faire connaître au monde que le Dieu Sauveur s'est révélé en Jésus-Christ et que le salut ne peut être obtenu que par lui. Romains 16, versets 25 et 26.
Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère à l'égard duquel le silence a été gardé dès les temps éternels, mais qui a été manifesté maintenant et qui, par des écrits prophétiques, a été donné à connaître à toutes les nations, selon le commandement du Dieu éternel, pour l'obéissance de la foi.
Ce commandement exige l'obéissance de la foi. Il est inséparable de la personne du Christ Jésus, notre espérance, le seul auquel un pécheur puisse se confier, la seule et unique planche de salut offerte à l'homme perdu. Mais ces choses ne peuvent être proclamées que par un homme qui a commencé par les recevoir pour lui-même, et c'est ainsi que Paul les avait reçues directement du Seigneur, et que son véritable enfant, Timothée, les avait reçues par son canal. Aussi, trouvons-nous dans ces deux versets les éléments sur lesquels sont fondées les relations de tout individu avec Dieu. Pour Paul, comme pour Timothée, le Dieu Sauveur est notre Dieu Sauveur, leur Dieu Sauveur à tous deux. Le Christ Jésus est notre espérance. Dieu est notre Père, en vertu du salut. Christ notre Seigneur, comme ayant acquis tous les droits sur Paul et sur Timothée. Ces bénédictions étaient acquises à tous deux par la foi, et c'est par elles que Timothée était devenu l'enfant de l'apôtre. La salutation de Paul à Timothée apporte à celui-ci grâce et paix, mais en outre, miséricorde, terme qui ne se trouve que dans les épîtres adressées à un individu. Une note en bas de page, dans l'épître à Tite, la leçon est douteuse. C'est, en effet, ce dont nous ne pouvons nous passer pour notre vie de chaque jour. L'apôtre lui-même, appelé par Dieu à sa mission, que serait-il devenu sans la miséricorde ? Verset 13. Versets 3 à 7.
Comme je t'ai prié de rester à Éphèse lorsque j'allais en Macédoine, afin que tu ordonnasses à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères et de ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies interminables, qui produisent des disputes plutôt que l'administration de Dieu, qui est par la foi. Or, la fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience, et d'une foi sincère, desquels quelques-uns s'étant écartés se sont détournés à un vain babil, voulant être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent.
Le service confié à Timothée est plus élevé et plus étendu que celui de Tite. D'abord, quant à la sphère où elle se déploie, l'activité de Timothée s'exerce à Éphèse, lieu où les doctrines les plus élevées quant à la position céleste de l'assemblée avaient été proclamées et reçues dans la puissance du premier amour. Par contre, le lieu d'activité de Tite est la Crète, dont l'état moral habituel est suffisamment caractérisé dans l'épître qui lui est adressée. Quant au mandat lui-même, celui de Tite est l'établissement des anciens, mais avec une insistance particulière sur le saint enseignement que soit eux, soit les jeunes gens, devaient retenir et garder. Le mandat de Timothée va plus loin. L'ordonnance qui lui est confiée a pour but, avant tout, la conduite de chacun dans la maison de Dieu, et non pas seulement ce qui convient à ceux qui exercent des charges dans cette maison. Au reste, nous ne voyons pas qu'il soit ordonné à Timothée d'établir des anciens, mais nous trouvons l'énumération des qualités qui doivent distinguer les anciens ainsi que les diacres. Mais c'est avant tout la bonne et la saine doctrine, la doctrine selon la piété, qui est le devoir du délégué de l'apôtre. Tout l'ordre de la maison de Dieu basé sur la doctrine, disons plutôt sur la foi, verset 4, qui est ici l'ensemble de la doctrine chrétienne reçue par la foi. On apprend ainsi comment il faut se conduire dans cette maison, afin que le témoignage de Christ qui lui est confié ait toute sa valeur devant le monde. Mais voici qu'à peine confié à la responsabilité des saints, ce témoignage était en danger de périr par les ruses ou sous les attaques ouvertes de l'ennemi. Certaines personnes opposaient un enseignement basé sur autre chose que sur Christ à la saine doctrine de l'apôtre. C'est ce que ce dernier qualifie d'un seul mot grec, enseigner des doctrines étrangères. Il s'agissait de leur résister avec autorité. L'ordonnance, versets 3 et 5, était confiée à Timothée pour cela. Tout droit lui était conféré de commander à ces gens. Tant que subsistait l'autorité apostolique, cette mission était nécessaire pour que l'assemblée pût subsister comme témoignage extérieur dans ce monde et que des âmes simples, incapables de discerner entre la vraie et la fausse doctrine, fussent mises à l'abri. Ces doctrines étrangères n'étaient pas des saines paroles, celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles n'avaient pas pour base et pour origine les paroles de Christ, telles qu'elles sont contenues dans les Écritures. Elles n'avaient pas pour but la piété. Chapitre 6, verset 3.
Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil.
Elles devaient donc être réprimées avec autorité. Enseigner autrement, verset 4, conduit nécessairement aux fables qui sont nommées en Tite 1, verset 14, les fables judaïques.
Ne s'attachant pas aux fables judaïques et aux commandements des hommes qui se détournent de la vérité.
Au chapitre 4, verset 7 de notre épître, elles sont qualifiées de fables profanes et de vieilles femmes.
Mais rejette les fables profanes et de vieilles femmes.
1 Timothée 4, verset 7.
Mais rejette les fables profanes et de vieilles femmes, et exerce-toi toi-même à la piété.
Les évangiles apocryphes, les livres talmudiques en sont remplis. Ces doctrines qui n'ont pas Christ pour source et pour objet, n'ont aucunement et n'auront jamais pour résultat l'administration, c'est-à-dire la gérance, l'ordre de la maison de Dieu. Au lieu d'édifier cette maison, elles la détruisent, la livrent au désordre et à la ruine. Cela se passe encore tous les jours sous nos yeux. C'est le foin et le chaume introduits dans cette construction et qui seront finalement brûlés avec la maison qu'ils prétendent édifier. L'administration, basée sur la révélation de la grâce de Dieu et sur le mystère de l'Église, avait été confiée à Paul. Éphésiens 3, verset 2.
Si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous.
Éphésiens 2, verset 9.
de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses.
Il fallait maintenant qu'il fût bien manifeste qui édifiait sur ce fondement ou sur des doctrines étrangères,
car l'administration de Dieu est par la foi,
c'est-à-dire par une doctrine divine qui s'adresse à la foi pour être reçue, et cela en contraste avec la loi, comme nous allons le voir. Mais auparavant, l'apôtre s'interrompt pour montrer, verset 5, la fin, le but final de l'ordonnance confiée à Timothée, verset 3. Ce but est entièrement moral, c'est l'amour, mais l'amour inséparable d'un bon état d'âme devant Dieu, et l'on ne pourrait faire en quelques mots une description plus complète de cet état. L'amour s'appuie sur trois piliers, et, s'il en est ainsi, jamais on ne sera trompé par de fausses apparences si fréquentes dans le monde et qui devraient être étrangères à la maison de Dieu. Ces trois piliers sont le cœur, la conscience et la foi. Un cœur pur ne signifie pas un cœur exempt de souillure, parce que pur par lui-même, mais un cœur purifié par le lavage de la parole. Jean 13, verset 8 à 10.
Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. »
Jean 15, verset 3.
« Vous, vous êtes déjà net, à cause de la parole que je vous ai dite. »
1 Pierre 1, verset 22.
« Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment d'un cœur pur. »
2 Timothée 2, verset 22.
Mais fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
Une bonne conscience est une conscience qui, à la suite de la purification de nos cœurs, n'a rien à cacher à Dieu et conséquemment rien à se reprocher. Hébreux 10, verset 22.
Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure.
Une foi sincère est une foi exempte de toute hypocrisie. Ce mot de foi qui revient 17 fois dans cette épître a deux acceptions un peu différentes, comme on a déjà pu s'en apercevoir. D'abord, dans son sens habituel, la foi est l'acceptation, par la grâce, de ce que Dieu a dit au sujet de son Fils. En un mot, la réception du Sauveur. Ensuite, elle est l'ensemble de la doctrine chrétienne reçue par la foi. Ainsi, au verset 19 de notre chapitre, on garde la foi. 1 Timothée 1, verset 19.
Gardant la foi et une bonne conscience.
Au chapitre 3, verset 9, la foi est l'ensemble des choses jusqu'ici cachées, mais maintenant révélées et que la foi saisit. 1 Timothée 3, verset 9.
Gardant le mystère de la foi dans une conscience pure.
Au chapitre 4, verset 1. Apostasier de la foi, c'est abandonner ce que la doctrine chrétienne nous révèle. 1 Timothée 4, verset 1.
Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons.
Au chapitre 5, verset 8, on la renie.
Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens, et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule.
La foi est souvent mentionnée comme associée à une bonne conscience. Chapitre 1, versets 5 et 19. Chapitre 3, verset 9. C'est une chose très dangereuse pour le chrétien de n'avoir pas, pour quelque raison que ce soit, une bonne conscience devant Dieu, et l'on ne saurait trop sérieusement insister là-dessus. Elle nous fait nous écarter de la foi, et nos discours ne sont plus désormais qu'un vain babil, sans aucune portée pour les âmes. L'amour donc, but de toute l'activité de Timothée, devait s'appuyer sur le cœur, la conscience et la foi. Si cet amour était réellement actif, il ne serait plus nécessaire de faire des efforts pour entraver le mal, et il n'y aurait plus besoin de lutte pour maintenir ou rétablir l'ordre dans l'assemblée. Mais, au lieu de cela, l'ordre était troublé à Éphèse par certaines personnes qui étaient étrangères à l'état pratique du cœur et de la conscience dont nous venons de parler. Quelle en était la conséquence? Ces gens, au lieu de chercher le bien des âmes, ne songeaient qu'à eux-mêmes et à se faire reconnaître comme docteurs de la loi. De telles prétentions, sans l'état moral qui pourrait les faire accepter, ne font que mettre en lumière l'extrême pauvreté spirituelle et l'ignorance de ceux qui les affichent. Leurs paroles n'ont aucune valeur, elles sont un vain babil. À quoi sont-elles utiles? Ceux qui les prononcent ne comprennent pas eux-mêmes le sens de ce sur quoi ils insistent. Ce tableau frappant de la prétention à enseigner la parole sans la foi, sans un cœur purifié, sans une bonne conscience, a tout autant d'actualité aujourd'hui que du temps de l'apôtre. L'action de tels gens aura du reste toujours un caractère légal. Mais comprennent-ils même ce que la loi signifie? Versets 8 à 11.
Mais nous savons que la loi est bonne, si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci, que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour les batteurs de père et les batteurs de mère, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures. Et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine, suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié.
Ici, l'apôtre établit le contraste le plus complet entre la loi à laquelle ces soi-disant docteurs voulaient ramener les chrétiens et l'évangile. Le premier point sur lequel il insiste, c'est que la loi est bonne. Nous trouvons cette même affirmation absolue en Romains 7, verset 16.
Or, si c'est ce que je ne veux pas que je pratique, j'approuve la loi, reconnaissant qu'elle est bonne.
Toute la question en vient donc à en user légitimement, à savoir l'emploi qu'on doit en faire. Elle ne s'adresse pas aux justes, car comment condamnerait-elle un juste? Elle est donnée pour condamner le mal. Ici, l'apôtre passe brièvement en revue les personnes auxquelles la loi s'adresse et contre lesquelles elle sévit légitimement. En quelques mots, il caractérise leur état moral, la propre volonté, la désobéissance, l'impiété et l'esprit profane à l'égard de Dieu, l'absence de tout respect vis-à-vis des parents et les sévices contre eux, la violence et le meurtre, la souillure de la chair, les passions infâmes, le mensonge et le parjure, et bien d'autres vices encore, tombent sous la condamnation de la loi. Ici, l'apôtre revient au sujet principal de son épître. La loi sévit contre tout ce qui s'oppose à la saine doctrine, à l'ensemble des vérités qui constituent le christianisme, ou la doctrine qui est selon la piété. Chapitre 6, verset 3.
Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil.
Or l'Évangile est conforme à cette doctrine. Il ne contredit nullement la loi, mais introduit une chose toute nouvelle qui n'a absolument aucun point de contact avec la loi. Il est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, confié à l'apôtre. Ces quelques mots nous ouvrent une sphère de bénédiction dans laquelle l'esprit et le cœur peuvent se mouvoir librement, sans jamais en trouver les limites. Jugez-en. L'Évangile est la bonne nouvelle qui annonce aux hommes que la gloire de Dieu a été pleinement manifestée en Christ. La gloire de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble des perfections divines, justice, sainteté, puissance, lumière et vérité, et par-dessus tout son amour et sa grâce. Cette gloire a été pleinement révélée et mise à notre portée dans la personne d'un homme, le Christ Jésus, notre Sauveur. Elle a été manifestée en notre faveur, et c'est la merveille de l'Évangile. Toute cette gloire ne se cache ni ne se voile. Nous la voyons resplendir dans la face d'un homme, mais, bien plus, elle est pour nous, elle nous appartient. L'œuvre de Christ nous la confère. Tout ce qu'il est devant Dieu, ceux qui croient en lui, le sont désormais. Oui, la gloire de Dieu ne trône plus dans sa solitaire et inabordable perfection. Elle est devenue, dans un homme, la part de tous ceux qui croient en lui. Nous sommes, en vertu de son sacrifice qui a aboli le péché, parfaits devant Dieu comme lui-même. Il nous est fait, de la part de Dieu, sagesse, justice, sainteté et rédemption. Nous sommes lumière dans le Seigneur. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tout cela est le libre don de la grâce à de pauvres pécheurs justifiés par la foi. Mais notez que cet évangile est celui de la gloire du Dieu bienheureux. En nous le faisant connaître, Dieu veut nous rendre heureux comme lui-même. Le bonheur dont il jouit est devenu notre bonheur. Y a-t-il un contraste plus complet que celui-ci entre la loi qui maudit le pécheur et la grâce qui le transporte dans la jouissance de la gloire et du bonheur de Dieu, en attendant qu'il en jouisse dans la perfection d'une éternité sans nuages? Versets 12 à 14.
Et je rends grâces au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux. Mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus.
Or, qui était ce Paul auquel un évangile d'un tel prix avait été confié? Chose étonnante. C'était un homme qui violait le premier commandement, « Tu aimeras Dieu ». Il haïssait Dieu en croyant le servir, car il le haïssait dans la personne de son Fils. Ce Christ, il le blasphémait en contraignant les saints de le blasphémer. Acte 26, verset 11.
Souvent dans toutes les synagogues, en les punissant, je les contraignais de blasphémer. Et transporté de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères.
Il le persécutait dans son église bien-aimée. Il le couvrait d'outrage dans ceux qui croyaient en lui et le servaient fidèlement. Une telle attitude n'aurait pu être pardonnée si Paul n'avait pas fait ces choses par ignorance dans l'incrédulité. La foi n'étant autre chose que la réception, dans le cœur, de Christ comme Fils de Dieu. C'est pour cela que miséricorde lui avait été faite, sinon il aurait été condamné sans rémission. Quant aux Juifs, cette miséricorde n'avait pu leur être continuée. Sur la croix, Jésus, intercédant pour le peuple, avait dit
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. »
Il avait invoqué la miséricorde de son Père à cause de leur ignorance. C'est aussi ce que Pierre leur disait en Acte 3, verset 17.
« Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. »
Mais ensuite, quand il lapidait Étienne, il savait ce qu'il faisait. Il rejetait le Saint-Esprit qui leur était envoyé par Jésus-Christ ressuscité. Acte 7, verset 51.
gens de col roide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères, vous aussi.
Ce péché ne pouvait leur être pardonné. Saul de Tarse, qui consentait à la mort d'Étienne, acte 7, verset 58, et 8, verset 1, n'était-il pas sur le même pied que son peuple? Acte 7, verset 58.
Et l'ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient, et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul.
Acte 8, verset 1.
Et quand il eut dit cela, il s'endormit, et Saul consentait à sa mort.
Quelles ressources lui restait-il donc? Aucune. Et cependant, il en restait une encore, la grâce surabondante, qui pouvait estimer fidèle un tel homme et l'établir dans le service. Il n'y avait que la foi par laquelle put être anéantie son incrédulité précédente. Il n'y avait que l'amour qui est dans le Christ Jésus, qui put remplacer la haine dont son cœur avait été rempli jusque-là. Et cet amour ne pouvait être connu que par la foi. Ce verset 14 est donc la preuve de ce que la grâce donne quand elle s'occupe même du premier des pécheurs. Elle le retire d'entre les pécheurs par une grâce surabondante, lui donne la foi et, par elle, lui fait connaître l'amour qui est en lui. Verset 15-17.
Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Mais miséricorde m'a été faite, à cause de ceci, savoir, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montra toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or, qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.
Dès que cette œuvre de l'Esprit de Dieu a eu lieu dans son cœur, Paul peut annoncer Christ et le salut. Ce que nous trouvons ici, c'est l'Évangile dans sa plus simple expression.
Cette parole est certaine et digne de toute acceptation.
Il y a beaucoup de paroles certaines dans les épîtres à Timothée et à Tite. Nous nous en sommes expliqués dans notre étude sur Tite. Mais ici, l'apôtre ajoute ces mots.
Et digne de toute acceptation.
Afin de montrer les résultats immenses de cette parole pour toute âme qui la reçoit. Nous y reviendrons au chapitre 4, verset 9. La simple vérité qui est à la base de toute relation entre l'homme pécheur et le Dieu sauveur est exprimée ici de la manière la plus solennelle.
Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
Dieu fait homme, dans la personne de Jésus, est venant ici-bas pour sauver les pécheurs, non pas des pécheurs, mais pour accomplir une œuvre d'une portée universelle offerte à tous, et dont nul pécheur, même le plus indigne, n'est exclu d'avance. Le but de Dieu en venant dans le monde était de sauver les pécheurs. Au chapitre 2, verset 4, nous voyons que c'est aussi sa volonté. 1 Timothée 2, verset 4.
Notre Dieu sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité.
Du côté de Dieu, il n'y a donc aucun obstacle. Tout concourt en lui à ce dessein arrêté. Mais l'homme, chose terrible à constater, méconnaît le but de Dieu et s'oppose de la manière la plus formelle à sa volonté. Au milieu de cette révolte de l'homme contre lui, sa grâce surabondante peut seule contraindre l'homme et faire d'un Saul de Tarse l'agent pour présenter le salut à d'autres. Nous avons vu, au verset 11, le côté de Dieu dans l'Évangile. Nous voyons ici, au verset 15, le côté de Christ, son abaissement pour accomplir ce glorieux résultat, le salut. Or, ce salut est, non seulement la délivrance du péché et du joug de Satan, mais l'introduction de l'homme en des relations éternelles, avec le Dieu de gloire. La délivrance du péché, nous l'avons ici dans toute sa simplicité, quand l'apôtre nous parle d'une chose certaine et digne de toute acceptation. Les relations nouvelles, nous les trouvons dans la proclamation de l'Évangile de la gloire, au verset 11. Ici, Paul s'intitule « Le premier des pécheurs ». Aucun autre homme ne peut s'appeler de ce nom. Paul, n'étant encore que Saul de Tarse, s'était mis à la tête d'une armée dont Satan était, sans qu'il s'en doutât, le chef occulte, avec le but d'extirper de ce monde le peuple de Dieu et le nom même de son chef et seigneur, pour le triomphe de la religion juive. Avec toute son énergie charnelle, avec toute sa conscience religieuse, et elle était fort grande, Saul voulait anéantir et ôter du monde le nom de Christ, car il était entièrement incrédule quant à sa résurrection. Oui, cette triste place prépondérante, il l'occupait à la tête des ennemis de Christ, ce qui lui fait dire « dont moi je suis le premier ». Depuis que, dans l'évangélisation courante, beaucoup d'orateurs ont pour habitude de raconter leur conversion en exagérant à plaisir le tableau de leur propre misère, ce qui faisait dire à Spurgeon que ses confessions publiques lui faisaient l'effet de la sonnette annonçant le passage du char des balayures. On les entend s'écrier « Je suis le premier des pécheurs ». Ce mot n'est pas vrai, et de fait, chose triste à dire, pas un de ceux qui parlent ainsi ne le croit réellement. Cette parole leur offre même un moyen de s'enorgueillir et leur fournit l'occasion d'occuper leurs auditeurs d'eux-mêmes et de leur propre humilité, plutôt que de n'en rien dire. Mais ce que l'apôtre disait ici de lui-même, comme dans ses trois discours des Actes, était une frappante réalité et avait pour but d'expliquer la portée immense de la mission qui lui avait été confiée. Si, dans cet état d'affreuse révolte contre Christ, il avait été fait miséricorde à Saul de Tarse, c'était, dit-il,
à cause de ceci, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montra toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle.
Dieu choisissait Saul de Tarse comme un exemple de ses voies envers ceux qui viendraient à croire par son ministère. S'il pouvait agir ainsi envers un blasphémateur et un persécuteur, y avait-il un seul homme qui pût dire « Jésus-Christ n'aura pas patience envers moi » Non, car déjà Jésus-Christ avait montré toute sa patience envers Paul. Ainsi, comme le salut était pour tous les pécheurs, la patience était pour tous. Et certes, cette patience avait une valeur immense. Il suffisait maintenant de croire en lui, et l'on obtenait ainsi la vie éternelle. Arrivé à ce mot final qui introduit l'âme dans la possession d'une félicité sans fin, un hymne de louange s'élève du cœur de l'apôtre et monte jusque dans les profondeurs du troisième ciel. Cet hymne est adressé au Dieu souverain de qui descend le don suprême de la vie éternelle sur tous ceux qui croient. Leur âme est, par la vie éternelle, mise en rapport direct avec lui. Il est le roi des siècles, le seul devant qui le temps et l'éternité n'ont pas de limite et qui les domine. Il est l'incorruptible, le seul qui soit au-dessus de tout ce qui est livré à la corruption et ne puisse être atteint par elle, comme l'ont été la création, les hommes et même les anges. Il est l'invisible, celui qui est au-dessus de toute chose visible et que nul œil ne peut voir. Il est seul Dieu. C'est autour d'un tel Dieu que monteront éternellement nos hommages. Il ne s'agit pas ici du Dieu Sauveur, ni du Christ Jésus, venu pour sauver les pécheurs. Un trait manquerait à sa gloire s'il n'était encore exalté d'une autre manière. Il est le Dieu qui, de sa gloire inaccessible, a daigné abaisser ses regards sur sa créature déchue pour lui donner la vie éternelle, une vie capable de le connaître et de le comprendre, une vie qui répond à sa propre nature. À lui soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. Il est bien remarquable qu'au chapitre 6, versets 15 à 16 de cette même épître, nous retrouvions un passage qui a une portée analogue à celui-ci, tandis que nous n'en trouvons nulle autre part de semblable. 1 Timothée 6, versets 15 à 16.
Notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. Amen.
Au reste, l'expression de la louange spontanée devant les mystères de la grâce revient plus d'une fois dans les Épîtres. Ainsi, en Romains 11, versets 32 à 36.
Car Dieu a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et il lui sera rendu? Car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen.
Hébreux 13, verset 21.
Notre Seigneur Jésus vous rende accompli en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable devant lui, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Éphésiens 3, versets 20 à 21.
Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen.
Versets 18 à 20.
Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi, du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
L'apôtre revient maintenant à l'ordonnance, au mandat qui avait été confié à Timothée, et dont il avait parlé au verset 3 et 5 de ce chapitre. Il entre dans le sujet propre de l'épître, après avoir terminé, comme nous l'avons vu, par un chant de triomphe et un amen, le magnifique exposé qui se déroule du verset 5 au verset 17. Nous allons trouver les détails de ce mandat dans les chapitres qui suivent. Au chapitre 1, verset 3 à 4, l'apôtre n'avait encore parlé que du danger immédiat qui menaçait les saints d'Éphèse avec l'autorité qui lui était conférée. Ce danger ne se résumait encore que dans l'activité de certaines personnes. Mais auparavant, Paul place devant son fidèle disciple et enfant dans la foi l'importance aux yeux de Dieu de l'ordonnance qui lui avait été confiée. 1 Timothée 4, verset 14.
Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains du corps des anciens.
2 Timothée 1, verset 6.
C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi, par l'imposition de mes mains.
Des prophéties avaient été faites auparavant au sujet du don que devait recevoir ce fidèle collaborateur de l'apôtre. Il l'avait donc reçu par prophétie, mais il lui avait été communiqué par l'imposition des mains de Paul. Ce don avait été accompagné de l'imposition des mains du corps des anciens. Ce dernier fait signifiait l'identification des anciens avec Timothée dans son service et la sanction qu'ils y apportaient, car ils ne lui communiquaient rien. Nombre 8, verset 10.
Et tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les fils d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites.
Il appartenait à l'autorité apostolique et à nul autre de transmettre occasionnellement le don, qu'il fût un don de grâce ou le don du Saint-Esprit, don qui, du reste, le plus souvent, était envoyé directement d'en haut par le Seigneur. Mais jamais on ne voit les anciens le communiquer. Les prophéties faites précédemment au sujet de Timothée annonçaient que celui-ci était désigné de Dieu pour combattre le bon combat, un combat nécessaire, destiné à soutenir la saine doctrine dans la maison de Dieu et à déjouer les ruses de l'ennemi. Cette victoire ne pouvait avoir lieu que si Timothée gardait la foi, c'est-à-dire l'état de l'âme qui est fermement attachée à l'ensemble de l'enseignement de Dieu dans sa parole. La foi n'est plus sincère, verset 5, quand la conscience n'est plus bonne et cherche à se soustraire en quelque manière que ce soit au contrôle de Dieu. Alors il y a de la fraude dans le cœur. Cet état est des plus dangereux. L'âme s'habitue à éviter la lumière de la présence du Seigneur et de sa parole. Rejeter une bonne conscience amène tôt ou tard l'âme à abandonner la foi. Toutes les hérésies ont leur source dans un mauvais état de la conscience qui, fuyant l'occasion de rencontrer Dieu, est livrée à elle-même et, dans cet état, abandonne la vérité telle que Dieu nous l'a enseignée dans sa parole. Hyménée et Alexandre en étaient arrivés là. Il ne nous est pas dit ce qu'ils enseignaient, mais la parole a soin de nous dire que c'était des blasphèmes, sans doute des blasphèmes contre Christ, peut-être en rapport avec la loi, car Paul nous dit, en décrivant son état d'inimitié contre Christ, qu'il était lui-même un blasphémateur, verset 13. On voit en acte 26, verset 11, de quelle manière cela avait lieu. Acte 26, verset 11.
Et souvent dans toutes les synagogues, en les punissant, je les contraignais de blasphémer, et transporté de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères.
Au chapitre 4, verset 1 de notre épître, l'apôtre nous dit que quelques-uns apostasieront de la foi, c'est-à-dire rejetteront entièrement la doctrine chrétienne. 1 Timothée 4, verset 1.
Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons.
Ici, le mal n'étant pas encore arrivé à son apogée, c'était plutôt qu'au lieu d'employer leur activité pour le maintien de la foi, ils avaient fait personnellement naufrage et que, n'ayant plus de boussole pour se diriger, ils avaient perdu tout sentiment de la valeur, de la dignité, de la sainteté du Seigneur. Il est possible que l'on retrouve ce même Hyménée en 2 Timothée 2, verset 17, mais associé à Philette et soutenant une doctrine qui fermait le ciel aux rachetés et les établissait définitivement sur la terre. 2 Timothée 2, verset 17.
Leur parole rongera comme une gangrène, desquels sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité.
On pourrait aussi supposer, mais sans plus de preuves, qu'Alexandre, en 2 Timothée 4, verset 14, est devenu l'ennemi acharné de l'apôtre. 2 Timothée 4, verset 14.
Alexandre, l'ouvrier en cuivre, a montré envers moi beaucoup de méchanceté. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres.
L'acte de livrer à Satan avait eu lieu effectivement dans notre passage. En 1 Corinthiens 5, verset 5, il nous est présenté comme étant l'intention de Paul qui n'eut pas besoin de le mettre à exécution. 1 Corinthiens 5, verset 5.
J'ai jugé, dis-je, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus.
Cet acte d'autorité apostolique n'était nullement assimilable à celui de l'assemblée, dont le devoir était d'ôter le méchant de son sein. Les deux hommes dont il est parlé ici, ayant été abandonnés entre les mains de Satan, étaient désormais hors de l'assemblée, privés de son contrôle et de son influence, dont ils avaient joui jusqu'alors, devenus, par ce fait, comme la propriété de l'ennemi, qui n'avait désormais d'autre but que de les séparer à tout jamais de Christ, sans espoir de retour. Cependant, là encore, au milieu de ce terrible jugement, Dieu avait une intention de grâce. La misère, probablement morale et physique, où ils étaient plongés, pouvait leur apprendre à ne plus blasphémer, rendant ainsi leur restauration possible.